Le 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevé lundi dernier avec la prise de fonction du président rwandais Paul Kagame en tant que président de l'institution pour l'année 2018. Le principal thème de ces assises était la lutte contre la corruption en Afrique. Mais le sommet s'est aussi penché sur les réformes telles que la zone de libre-échange continentale et la taxe de 0,2% sur les produits importés pour l'autofinancement de l'Union africaine. Quelle lecture faire de ce 30e sommet de l'Union africaine? Et pour en parler, je reçois professeur Bob Kabamba. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Jérôme Sekana, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste économique et directeur de l'agence Galaxy Media. Ernest Mpararo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire exécutif de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO, et aussi point focal en RDC de l'ONG Transparency International. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Clôture lundi dernier à Addis Abeba en Éthiopie du 30e sommet de l'Union africaine dont le thème était la lutte contre la corruption. L'autofinancement de l'UEA et la mise en place d'une zone de libre-échange étaient aussi à l'ordre du jour dans les débats. Pour y arriver, le président rwandais Paul Kagame, président de l'Union africaine pour 2018, est chargé d'appliquer ses réformes et notamment celle de l'autofinancement grâce à une taxe de 0,2% sur les importations. D'autres détails avec vous, Dona Madimba.
S'agissant de la lutte contre la corruption, non seulement ce mal a été une fois encore autopsié en profondeur, identifiant les différentes manifestations de la corruption, petites, intermédiaires et grandes, mais sur ce même sujet, le président nigérian Muhammadu Buhari a été désigné lors de ce sommet d'Addis Abeba champion africain pour la lutte contre la corruption par ses pairs, concernant la réforme liée à l'autofinancement du budget de l'Union africaine afin de sortir de la tutelle étrangère. La question était au centre du huis clos qui a précédé l'ouverture solennelle du sommet avec la proposition du prélèvement d'une taxe de 0,2% sur certaines importations et qui est toujours source de divergence. L'intégration régionale reste toujours parmi les défis à relever. Une zone de libre-échange continentale sera lancée au mois de mars prochain au Rwanda. Un sommet extraordinaire des chefs d'État africains est même proposé pour valoriser cet événement. Au niveau protocolaire, si le Guinéen Alpha Condé a cédé sa place de président tournant de l'UA au Rwandais Paul Kagame pour toute cette année 2018, l'Égyptien Fatah Al-Sissi, lui, succédera Paul Kagame en janvier 2019.
Merci Dona Madimba. Professeur Bob Kabamba, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur, pour vous, quels étaient les enjeux de ce 30e sommet de l'Union africaine?
Je pense que le plus grand enjeu, au-delà de ce que votre collègue vient de faire comme synthèse de ce sommet, ça a été la question liée à l'autofinancement de l'Union africaine. Je pense sincèrement que c'était un problème qui gangrenait le processus d'intégration au niveau de l'Union africaine, parce qu'il faut bien se rendre compte de quoi on parle. Donc on parle d'une responsabilité des pays africains qui se sont mis d'accord entre eux pour essayer d'avoir une organisation internationale, cette organisation internationale depuis 1963 qui s'appelait OUA, maintenant qui s'appelle Union africaine. Alors dans les faits, cette institution était censée pouvoir défendre les intérêts des Africains, non seulement au niveau international, mais aussi combiner les efforts des uns et des autres pour essayer de résoudre les problèmes typiquement africains, mais avec les Africains. Mais conséquence de cette stratégie, de ce projet, c'est que ce projet a été un projet mort-né, puisqu'il a fallu que ce soit l'international qui assure pour l'essentiel l'existence de cette institution. Quand je dis l'existence de cette institution, c'est que lorsqu'on regarde les chiffres qui sont publiés d'ailleurs par l'Union africaine elle-même, c'est qu'on se rend compte qu'il y a exactement 3/4 du financement de cette organisation qui sont assurés par l'extérieur. Quand je dis extérieur, ça veut dire grosso modo l'Union européenne, la Chine, les États-Unis et quelques pays bilatéraux qui interviennent dans le financement. C'est un financement qui est à hauteur de plus ou moins 700 millions de dollars. Ces 100 millions de dollars, vous en doutez que c'est 700 millions de dollars, c'est beaucoup. Sur les 700 millions de dollars, ça veut dire que plus ou moins 500 millions de dollars viennent d'un financement extérieur. Et cette situation est intenable. Pourquoi elle est intenable? Parce que depuis un certain temps, il y a un discours au niveau africain qui commence à émerger, qui commence aussi à prendre forme, qui dit qu'il est temps quand même que les Africains se prennent eux-mêmes en charge, non seulement qu'ils se prennent eux-mêmes en charge, mais aussi financièrement en charge. Et que se prendre en charge, ça veut dire prendre en charge tout ce qui est opération de maintien de la paix sur le continent africain. Comme vous savez, il y a beaucoup d'opérations de maintien de la paix. Cependant, ça veut dire grosso modo résoudre les différents problèmes qu'il y a entre plusieurs pays. Je ne vais pas les citer tous ici, je vais citer par exemple Soudan et Sud-Soudan qui sont en difficulté, Érythrée avec l'Éthiopie, toute une série de dossiers comme ça pour lesquels l'Union africaine se retrouve incapable de les gérer sans l'appui de l'international. Et ces critiques de la part de certains dirigeants africains de plus en plus contre la communauté internationale commencent à aller en inadéquation avec la réalité. Professeur, vous allez critiquer la communauté internationale sur des questions de paix, sécurité, etc., pendant que vous-même, vous êtes incapable de pouvoir résoudre vos problèmes sans le concours de la communauté internationale.
Professeur,
pour bien comprendre, je prends le cas de la RDC, c'est-à-dire que la RDC dit, j'ai des problèmes, je n'arrive pas à les résoudre, mais j'ai besoin de la communauté internationale pour les résoudre, mais je continue à critiquer la communauté internationale et je veux que la communauté internationale vienne résoudre mes problèmes. Et donc on en était à ce niveau-là. Et donc
professeur,
il fallait réfléchir sur un mécanisme qui va permettre justement maintenant au continent de pouvoir disposer de ses propres moyens pour pouvoir répondre aux enjeux et aux difficultés liées à ce continent. D'où la proposition de 0,2% d'exploitation de certains produits importés par le continent qui pourraient amener à financer donc l'Union africaine pour que l'Union africaine devienne véritablement un interlocuteur au niveau international, mais aussi peser dans la résolution des problèmes au niveau africain.
Professeur, ce n'est pas la première fois qu'on parle de l'autofinancement de l'Union africaine. C'est un vieux débat, mais pourquoi, selon vous, jusque-là, ça n'a pas encore marché?
Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'on était dans des relations, au niveau des relations internationales, on était dans ce qu'on appelle dans des relations interdépendantes qui, après, surtout, la fin de la guerre froide a permis qu'on entrait dans une espèce de unilatéralisme. Mais maintenant, depuis quelques années, on assiste à une montée de multilatéralisme, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs partenaires. L'Afrique ne demande plus de quelques partenaires, dépend de plusieurs partenaires, et plusieurs partenaires interviennent maintenant dans le financement de cette structure. Et cette histoire, ce financement de plusieurs partenaires crée des dissensions, crée des antagonismes entre les partenaires du continent qui financent. Clairement, ça veut dire grosso modo, il y a des antagonismes entre la Chine, par exemple, et l'Union européenne pour le financement de l'Union africaine. Et de cette façon-là, l'Union africaine se retrouve piégée et otage de ces rapports de force entre ces deux grands.
Merci.
Et ce débat, de plus en plus, donc, revient à de l'actualité et a été favorisé aussi, il faut le dire, par le fait que l'Union africaine, ces dernières années, a été dirigée par des présidents qui tiennent manifestement à l'indépendance du continent vis-à-vis de ces différents pôles.
Merci, professeur.
Ces multilatéralismes. Je parle notamment.
Merci, professeur. Souffrez que je vous arrête à ce niveau. Je reviens à vous, Jérôme Sekana. Vous êtes journaliste économique et directeur de l'agence Galaxy Media. Pour le professeur Bob Kabamba, le plus grand enjeu, c'était notamment la question de l'autofinancement de l'Union africaine. Pour vous, quels étaient les enjeux de ce 30e sommet?
Il était temps que l'Union africaine puisse un peu devenir mature et essayer de se prendre en charge, parce que c'était devenu presque ridicule pour l'Union africaine qui est financée à plus de 90%, qu'elle puisse toujours dépendre de la Chine, de l'Union européenne et même des États-Unis, parce que vous savez, la main qui donne a plus de pouvoir sur la main qui reçoit. et il fallait qu'on en arrive là. Et ce qui a vraiment inspiré les chefs d'État africains, le succès de ce genre de taxe du côté de la CEDEAO. Du côté de la CEDEAO, cette taxe existe et a déjà donné des bons fruits. Et les cotisations se font très très bien et la CEDEAO est en train d'avancer dans la bonne direction. Et souvenez-vous, en juillet 2016, lorsque Paul Kagame avait reçu cette mission de ses pairs, surtout de penser sur les réformes qui pouvaient amener l'Union africaine à l'efficacité et surtout à l'autonomie, tout de suite, Paul Kagame s'était tourné vers Donald Kaberuka, qui était président du groupe de la BAD, mais également Carlos Lopez, qui était le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. C'est une très bonne chose dans la mesure où, pour une fois, l'Afrique, si ce projet tient la route, et nous osons croire que ça va tenir la route, parce qu'il y a déjà 20 États sur les 55 qui sont déterminés, qui ont déjà commencé à mettre la main à la poche, en commençant par la Côte d'Ivoire, et les autres qui ont donné un accord de principe, nous osons croire que nous allons y arriver, parce que dans une année, on peut mobiliser quelque chose comme 970 millions d'euros, ce qui vaut à peu près 1 milliard 100 millions de dollars disponibles, qui peut, ces montants peuvent permettre à l'Union africaine de devenir plus ou moins autonome. Donc moi, je trouve ça très responsable, mais c'est au niveau de la faisabilité. D'autant plus qu'il y a des voix discordantes qui s'élèvent, Al-Sisi d'Égypte et Zuma de la République centrafricaine, de la République sud-africaine, tout simplement parce que ces deux pays-là ont des accords avec les États-Unis. Vous êtes sans oublier que les États-Unis déboursent plus $1 milliard pour supporter l'armée égyptienne. Les États-Unis ont des bons rapports aussi avec l'Afrique du Sud et que la politique de Trump voudrait qu'on réduise les taxes, il faut éviter de multiplier les taxes, comme il est en train d'engager également des réformes fiscales au niveau des États-Unis. Et confier cette mission à Paul Kagame, c'est une bonne chose dans la mesure où Kagame a donné quand même des signaux forts sur sa gestion en matière de bonne gouvernance, en matière de discipline. Donc c'est pour cette raison que nous pouvons croire que ce projet pourra aboutir sur de
Jérôme Sekana. Oui. Jérôme Sekana, à part la bonne volonté, bien sûr, vous avez parlé des antagonismes qui naissent déjà. Quels sont les préalables pour que l'Union africaine arrive à son autofinancement?
D'abord, les préalables sont l'auto-prise en charge. Chaque pays, bien sûr, nous avons des difficultés, mais si nous voulons arriver à poser des actes de souveraineté sur le continent africain, nous ne devons pas attendre que la Chine nous donne de l'argent, l'Union européenne, ainsi de suite. Les préalables, c'est la bonne gouvernance, que nous devons nous discipliner, nous devons nous imposer les règles de la bonne gouvernance, ce qui n'est pas chose facile parce que le sommet lui-même a porté sur la corruption et vous savez que la corruption, c'est devenu un sport national. C'est un sport transversal. Dans tous les pays africains, il y a une impunité grave qu'on observe dans le chef même de dirigeants africains, des présidents qui se laissent corrompre en ce qui concerne notamment la gestion des ressources naturelles avec des commissions obscures qu'on leur accorde. Donc c'est difficile vraiment qu'on arrive à des résultats escomptés si on ne prend pas vraiment les taureaux par les cornes, c'est-à-dire qu'il y ait des modèles comme on a cité le président Buhari du Nigeria, qui ne patine pas, qui sanctionne, mais quand on a des chefs d'État qui ne savent pas sanctionner, eh bien, nous risquons de marquer le pas sur place et de ne pas avancer. Mais au moins, je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie, et même si les 55 États n'arrivent pas à mettre la main à la poche tout de suite, nous osons croire que dans les 5-10 ans à venir, eh bien, tout le monde comprendra que si l'Union africaine a de l'argent dans ses coffres, eh bien, elle peut prendre des décisions souveraines, elle peut intervenir. Vous voyez même, sur le plan sécuritaire, je vais terminer par là, les G5 Sahel. Donc, il faut que la France intervienne, l'Allemagne, la Grande-Bretagne.
Merci.
C'est pas normal. Donc, nous avons besoin d'avoir le moyen de notre politique pour nous permettre d'agir et de manière efficace. Et
ces réponses
ne concernent pas seulement les financements. Mais
merci Jérôme Sekana. Voilà, je reviens à vous tout de suite. Ernest Mpararo, vous êtes secrétaire exécutif de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO, et aussi point focal RDC de l'ONG Transparency International. Jérôme Sekana a terminé son propos par la corruption. Est-ce que ça ne vous paraît pas un peu étonnant qu'un tel sommet se termine alors que le thème était la lutte contre la corruption, mais sans résolution forte ou recommandation concernant ce thème?
Et, merci beaucoup. Effectivement, la lutte contre la corruption, c'est comme une fiction au niveau de l'Union africaine. Mais comme les dirigeants qui se sont réunis au 30e sommet de l'Union africaine se sont engagés à lutter contre la corruption, je pense que nous allons les tenir au mot. Nous allons faire des mécanismes de plaidoyer pour suivre tous leurs engagements. Et, mais cela étant, j'ai suivi les deux co-débatteurs qui ont dit, écoutez, il faut d'abord qu'il y ait des préalables. Effectivement, parmi les préalables, c'est la lutte contre la corruption. Comme vous le savez, sur le rapport de l'indice de perception de la corruption qui est produit par Transparency International, sur 55 États africains, au moins 30 États sont des États africains où la corruption, où ces États sont les plus corrompus de la planète. Si vous parlez au niveau de dossier Panama Papers, vous avez suivi ensemble que la plupart des personnes qui ont des personnes qui ont été identifiées ayant des comptes offshore, ayant des comptes dans les paradis fiscaux, il y a la plupart sont des personnes d'origine africaine.
Il y a des pays comme la Somalie, le Tchad, la Centrafrique, la RDC.
Effectivement. Et ce sont ces pays-là qui sont naturellement, qui ont des ressources naturelles les plus riches de la planète. Mais ce sont des pays qui sont extrêmement pauvre aussi. Pourquoi? Parce que la lutte contre la corruption, le détournement des données publiques, l'évasion fiscale, le flux financier illicite sont les caractéristiques de tous ces pays-là. Alors, comment financer l'Union africaine plutôt? Ils ont créé les 0,2%. Mais est-ce que ça va réussir dans ces États-là? Moi, personnellement, je ne pense pas. À moins que, comme comme le président rwandais venait de prendre la tête de l'Union africaine, à moins qu'il puisse donner des exemples comme ce qu'il fait chez lui, parce qu'il est en train de lutter effectivement contre la corruption. Et
donc le leadership de Paul Kagame peut apporter quelque chose.
Effectivement, mais je pense qu'il est seul. Sur 55, il est seul, il risque d'être dilué par tous les dinosaures qui sont autour de l'Union africaine, et ses efforts risquent de ne pas être satisfaisants au point de vue continental. Mais cela étant, nous pouvons, nous en tant que société civile, nous pouvons que prendre au mot les dirigeants africains qui se sont engagés à lutter contre la corruption, qui se sont engagés à, et nous allons suivre comment est-ce qu'ils vont lutter contre la corruption, parce que, comme vous le savez, il y a plus de 1000 milliards de dollars qui sortent de l'Afrique vers les pays européens ou les pays développés en termes d'évasion fiscale. C'est de l'argent qui peut financer de l'eau, de l'électricité, des routes en Afrique, mais cet argent est détourné par certains dirigeants africains. Vous, comme vous le savez, il y a pas mal de procès en Europe. Regardez par exemple les procès au Portugal qui concernent le vice-président du Sénat angolais. Il y a des procès contre le président de la Guinée équatoriale. Il y a des procès contre le président du Gabon. Donc il y a pas mal de procès de détournement des biens publics qui font que la plupart des citoyens africains doutent de l'engagement de l'Union africaine à lutter contre la corruption.
Alors, il y a le coordonnateur Afrique de l'ONG Transparency International, Lucas Olo Fernandez, qui pointe également la responsabilité de certains pays occidentaux, en particulier dans les pays producteurs de ressources naturelles. Et là, il prend le cas de la RDC.
Effectivement, comme vous le savez, la RDC, nous avons beaucoup de matières premières. Mais qu'est-ce que nous constatons? Lorsqu'une entreprise vient, par exemple, je donne un cas, lorsque TFM est venu ici, il est venu sous la conduite de l'ancien secrétaire d'État, Madame Clinton, qui était venue avec les DG ou les CIO de TFM pour négocier les contrats. Or, lorsque un dirigeant africain ou qui n'a pas cette carrière de résister contre ce genre de pression, il ne peut que céder ses ressources sans qu'il puisse bien analyser. Nous avons des grandes entreprises ici, mais qui sont incapables de nous donner des recettes, étant donné que Ils ont signé des contrats dans une situation où les autorités étaient en faiblesse. Et comme aujourd'hui, nous avons un budget de 5 milliards, malgré qu'il y a une production de 1 million de tonnes de cuivre et l'embellie sur le cours des matières premières à Londres, mais un budget qui ne permet pas de développer les pays.
Et donc, on ne pourrait pas arriver à l'autofinancement si on ne mettait pas fin à la corruption.
Effectivement, ça n'arrivera pas. Et si vous regardez l'indice de perception de la corruption, je vous ai dit que sur les 55 États, 30 ou 35 États sont parmi les États les plus corrompus de la planète. Et ces États dépendent plus de l'aide internationale que de recettes provenant de leurs propres ressources naturelles. Ce qui fait qu'ils ne pourront jamais accepter d'appliquer les 0,2% parce que combien d'importateurs, combien d'entreprises qui importent chez eux, c'est trop petit. Et c'est ce qui fait qu'il y a même jusqu'à aujourd'hui, il y a certains États qui acceptent, il y a d'autres États qui n'acceptent pas parce qu'il y a des enjeux. Et à cause de la malgouvernance, à cause de la corruption, à cause des détournements des deniers publics, je ne pense pas que ces États pourraient accepter d'octroyer les 0,2% au budget de l'Union africaine.
Est-ce que l'Union africaine, Ernest Mpararo, qui est considéré comme un syndicat de chefs d'État, acceptera de se tirer une balle dans le pied en mettant en place des mécanismes de lutte contre la corruption au moment où plusieurs analystes estiment que ça commence par les chefs d'État?
Effectivement, nous allons avec l'impulsion peut-être du chef de l'État rwandais. Nous pensons que peut-être, nous espérons qu'il va donner des exemples aux autres. Regardez les bénéfices ou les résultats positifs de la lutte contre la corruption au Rwanda. Et si certains chefs d'État pouvaient y aller, j'ai vu il y a une année ou deux ans, le président du Bénin voulait aller au Rwanda pour voir comment est-ce que Kagame est parvenu à attirer les investisseurs. C'est parce que effectivement la gouvernance est respectée, les lois sont tellement respectées, mais ici chez nous ou dans d'autres pays, c'est vraiment une fiction.
Merci Ernest Mpararo. Professeur Bob Kabamba, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Mbandaka.
C'est Junior Bompongo à partir de la ville de Mbandaka. Nous imputons les maux de l'Afrique à ses dirigeants. Mais nous oublions que nous sommes tous responsables quelque part à faire déliquescence. Quand notre conscience professionnelle se raréfie, quand nous nous taisons devant l'inacceptable, quand nous nous prenons une part active à la corruption, n'est-ce pas là sa compromission? Chacun d'entre nous doit se poser cette question pour qu'ensemble nous puissions aider cette Afrique de se développer. Car depuis qu'elle a vu le jour, tous les chantiers bâtis pour son bonheur là et les objectifs lui assignés ont du mal à se réaliser.
Professeur, j'ajoute cette réaction de Freddy Bossi Mosissimi de Kisangani qui dit « L'Afrique est un continent qui a tout pour émerger. Nous avons des ressources nécessaires. Nous avons une jeune population active. Nous ne sommes pas enclavés car entourés des mers et d'océans. Nous avons des intellectuels, mais c'est la capacité organisationnelle qui nous manque, professeur Bob Kabamba.
Merci en tout cas pour ce questions fondamentales que viennent de poser effectivement les auditeurs. Je voudrais insister sur une chose. Nous savons tous que, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, que l'histoire de la corruption est un peu fondamentale, devient endémique au niveau du continent. Certains pays ont réussi à endiguer ce phénomène-là. Je pense au Rwanda, il Ivoire, Éthiopie, etc., qui ont réussi, entre guillemets, à endiguer. Et de plus en plus, je pense qu'il y a des mécanismes qui ramènent à montrer qu'il est possible de pouvoir lutter contre la corruption lorsque l'on parvient à mettre en place une série de systèmes qui jugulent ce phénomène de corruption. Si cela, certains pays ont réussi à pouvoir le faire, pourquoi ne pas le réussir au niveau africain? Et je pense que, comme je l'ai dit tout au début, c'est que la conscience, depuis quelques années, les choses ont changé. Je vais reprendre une expression que j'ai entendue à une conférence il y a quelques temps à Paris, où on a dit que l'impression que l'on a, c'est que l'Afrique commence à changer de logiciel. Ça veut dire que l'Afrique commence à prendre conscience de la potentialité qu'elle a, de la faisabilité et du poids qu'elle peut jouer dans le cadre des relations internationales et de peser de plus en plus. Et je suis sûr que la dynamique, la volonté de pouvoir mettre Paul Kagame à la tête de l'Union africaine, c'est aussi, va dans le même sens. Je vous laisse imaginer que depuis que l'Union africaine existe, depuis 1963, est-ce que vous pouvez imaginer qu'un petit pays de plus ou moins 10 millions d'habitants, avec un PIB qui n'est pas très important, puisse avoir la possibilité de pouvoir se prévaloir comme président de l'Union africaine, surtout dans le contexte actuel, avec les enjeux qui sont au niveau international. Pourquoi Paul Kagame a réussi à avoir l'unanimité des chefs de l'État, c'est uniquement lié justement à cette volonté, à ce changement de logiciel qu'on a remarqué depuis quelques années, où au niveau du continent, ça commence à changer. Et ça ne change pas uniquement au niveau des dirigeants. Ça change aussi au niveau des mentalités et au niveau des Africains eux-mêmes qui commencent à changer, à se dire qu'il n'est plus possible de pouvoir continuer à rester inactif et ne pas être un acteur dans le changement de ce qui est en train de se prévaloir. Il faut être aussi acteur de ce qui est en train d'arriver. Et ça, c'est vraiment fondamental de plus en plus. Pour vous donner aussi, pour vous aider à bien comprendre ça, je vais vous donner quelques chiffres que l'on a vus ici au niveau européen. C'est qu'il faut savoir que depuis maintenant quelques années, on a une espèce d'inversion. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup d'Européens qui quittaient l'Europe pour aller travailler en Afrique. Mais depuis quelques temps, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué une inversion. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Africains qui vivent en Europe, quittent maintenant l'Europe pour aller travailler sur le continent africain. Et ces personnes-là, quand elles rentrent sur le continent africain, reviennent avec un autre esprit, reviennent avec de nouvelles dynamiques pour justement conscientiser que l'Afrique peut aussi se prendre en charge, peut développer de nouvelles valeurs,
professeur,
peut aussi aller à l'encontre de la corruption, peut aussi arriver à résoudre beaucoup de problèmes qui sont endémiques depuis plusieurs années.
Professeur, parmi les pays qui ont réussi à endiguer la corruption, vous l'avez effleuré, ils ont mis en place des systèmes pour juguler cette gangrène. Cela passe notamment par une justice sérieuse.
Non seulement par une justice sérieuse, mais aussi par la valorisation des ressources humaines. C'est-à-dire que ceux qui doivent travailler dans le cadre de la jugulation de tout ce qui est possible de corruption doivent se mettre dans un système pour ne pas être corruptibles comme on connaît dans plusieurs pays. Et non seulement le système qui est mis, beaucoup de systèmes qui sont mis en place, développés notamment par certains pays africains, c'est-à-dire qu'on met en place des systèmes qui ne permettent plus, par exemple, que l'on puisse dilapider les ressources du trésor public. Lorsque vous payez vos impôts, vous êtes sûr et convaincu que les impôts que vous payez vont servir au développement du pays. Si vous posez, M. Léon, je vous mets au défi, posez la question au Congolais. Si le Congolais sait que l'argent qu'il va payer comme impôt va contribuer effectivement à construire la route, à construire l'école, à construire un centre de santé, vous pensez que le Congolais ne payera pas son impôt, il le payera.
Merci,
et
professeur.
Si, uniquement en mettant des mécanismes en place, dans ces pays-là, dans beaucoup de pays que je vous ai cités, on a effectivement à avoir ça.
Merci, professeur. Jérôme Sekana, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Les travaux du 13e sommet de l'Union africaine sont encouragés. Et je suis également ému de voir les chefs d'État africains afficher la volonté d'autofinancer l'Union africaine, car le financement extérieur est une source de subordination des États africains au regard de l'Occident. Mais la question reste de savoir comment les chefs d'État africains comptent-ils, c'est-à-dire on a de leurs soucis alors qu'ils se distinguent par la mégestion, la corruption, le détournement et la réforme de rester éternellement au pouvoir dans les pays respectifs. Le mieux serait de créer d'abord une cour de justice africaine qui sera compétente de juger ces chefs d'État d'honneur et dictateurs.
J'ajoute cette réaction de Dr Merdi Kalusutiko Luvualu qui nous écrit de l'Angola. Il dit c'est bien de lutter contre la corruption en Afrique. Je dirais que ces mêmes dirigeants ne sont pas des modèles. Tous briguent plusieurs fois des mandats en corrompant les instances électorales et ils vont nous dire qu'ils vont lutter contre la corruption. C'est paradoxal. Jérôme Sekana.
Oui, vous savez, la justice élève la nation. Et si aujourd'hui la corruption est devenue un sport populaire qui est transversal et intergénérationnel, c'est parce qu'il y a l'impunité et la structure ou l'institution qui est chargée de discipliner les gens, c'est la justice. Et quand vous avez une justice moribonde, corrompue elle-même jusqu'à la moelle épinière, vous ne pouvez pas vous attendre à de bons résultats. Donc il faut vraiment qu'on essaye d'organiser les choses au niveau de l'appareil judiciaire. Je suis tout à fait d'accord avec notre compatriote qui a appelé de Kisangani. Vous savez, au niveau de l'Afrique, nous avons des enjeux de taille, mais l'Afrique, c'est le continent de demain. Et tout le monde aura besoin de l'Afrique demain, d'autant plus que nous régorgeons de potentialités économiques qu'on ne trouve pas dans d'autres continents comme l'Europe, comme les États-Unis et j'en passe les meilleurs. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que nous devons croire en ce que nous voulons faire. Je ne suis pas pessimiste comme mon ami Pararo qui est avec vous en studio. Moi, je suis optimiste. Lui, il est pessimiste, peut-être il a ses raisons, mais moi, je dois vous avouer que j'étais en 2008 à Singapour. J'ai vu Kagame venir, il n'avait pas encore commencé à faire ce qu'il fait, et il avait promis de faire du Rwanda, de Singapour, de l'Afrique. Et 10 ans après, nous avons vu ce qu'il a fait. Donc, il a de l'énergie, et si par son impulsion, les choses peuvent changer, nous ne pouvons qu'applaudir. Mais je voudrais également demander à tous ceux qui nous suivent de suivre également ce qu'avait dit Martin Luther King. Martin Luther King, dans ses discours, avait dit « Écoutez, ne laissez personne, et alors personne, vous dire que vous ne valez rien. » Et c'est ça le discours que nous entendons de l'Union européenne, de ce que les Africains ne peuvent pas s'organiser. Il dit « Ne laissez personne vous dire que vous ne valez rien. » Et il ajoute « Si vous avez des objectifs, vous avez une vision claire et précise, si vous pouvez y parvenir en volant comme un oiseau, allez-y. Mais si vous ne savez pas voler, alors courez. »
Jérôme
Sekana. « Si vous ne savez pas courir, et s'il vous plaît, si vous ne savez pas courir, marchez. Si vous ne savez pas marcher, rampez, l'essentiel est d'avancer. » J'ai fait allusion à cela, tout simplement pour redonner le moral à tous les Africains. Je vous ai dit, en début de cette intervention, que ça marche en Afrique de l'Ouest. Et chaque fois quand nous étions avec Kabiruka, chaque fois quand nous étions avec Carlos Lopez, parce que je suis consultant en communication là-bas, au niveau d'Addis Ababa, à l'Union africaine et à la Commission économique nationale pour l'Afrique, nous disions que pourquoi vous ne pouvez pas étendre l'expérience de la CEDEAO. Si ça a marché à la CEDEAO, ça va marcher également au niveau de l'Afrique.
Le problème, Jérôme Sekana.
Oui.
Effectivement, c'est la question que j'allais vous poser. Mais pourquoi les autres pays africains ne parviennent pas à dupliquer l'expérience de la CEDEAO?
Bon, c'est un problème de gouvernance. C'est un problème également de l'exemple qui doit venir d'en haut. Lorsque vous avez des chefs d'État qui arrivent aux commandes de leur pays avec non pas l'intention de développer des pays, mais de s'enrichir et d'aller investir ailleurs parce qu'ils s'attendent peut-être à un coup d'État, parce qu'ils s'attendent, ils disent que c'est une occasion pour moi, mais ils n'ont aucune vision. C'est pour cette raison que je faisais allusion au discours de Martin Luther King. On ne peut pas avoir un chef d'État qui n'a pas de vision. On ne peut pas avoir un chef d'État qui est un mauvais exemple de la gouvernance. Donc, il faut que nous arrivions au niveau de l'Afrique à pouvoir voter des dirigeants qui sont capables de conduire nos pays, de booster la croissance de nos pays et surtout de parler d'une seule voix au niveau de l'Union africaine. L'Union africaine, c'est devenu, on a toujours considéré l'Union africaine comme étant un syndicat de chefs d'État. Il y a un compatriote qui a demandé qu'on mette sur pied la Cour de justice panafricaine. Mais c'est une bonne chose. On a vu ce qui s'est passé au Sénégal. Pense que si on peut continuer dans ce sens, un chef d'État qui a détourné les deniers publics, qui est arrivé aux affaires sans rien, et que 10 ans après ou 5 ans après, il est devenu milliardaire, eh bien ce sont des biens mal acquis, il faut les ravir
Merci
et les retourner dans les pays où il a pillé ça, comme ça ils seront un peu disciplinés, parce que ce fait qui nous traîne vers le bas,
Merci
alors que
Jérôme.
L'Afrique a besoin d'avancer.
Merci Jérôme Sekana. Ernest Impararo, nous prenons pour vous cette réflexion qui nous vient de Kolwezi.
Giovanni Bianco depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Il va sans dire que la corruption en Afrique se veut indubitablement conséquente de la mauvaise gouvernance et de la pauvreté. Elle est un phénomène dangereux qui a bousillé la société africaine. Ses effets touchent toutes les couches sociales, ce qui freine considérablement le développement des pays africains à tous les niveaux. Malgré quelques mesures pour lutter contre ces phénomènes, la corruption persiste au sein de la société. Les causes de cette persistance sont nombreuses. Cela va du plus haut sommet des États à leur société civile. On assiste à l'expansion des réseaux de corruption et de détournement des fonds publics dans toute l'Afrique.
Ernest Impararo, vous aviez déjà presque dit tout ce que vient de dire Giovanni Bianco de Kolwezi. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer par cet adage qui dit « Faites-moi de la bonne politique et je vous ferai une bonne économie »
Effectivement, comme vous le savez, parmi les pays qui luttent efficacement contre la corruption, actuellement, il y a le Rwanda, il y a l'île Maurice, et il y a le Botswana. Il y a des pays intermédiaires, dont par exemple le Cap-Vert, il y a le Nigeria, il y a à peu près l'Afrique du Sud, mais les autres pays qui restent, ce sont des pays dont la corruption est un sport national. Alors, demander à ces États-là de prendre 0,2% de leurs importations, chers amis, on est en train de rêver. Donc, peut-être que l'impulsion, l'exemple de ces champions de lutte contre comme le Rwanda, peut-être leur exemple pourrait inciter d'autres pays intermédiaires, dont par exemple le Sénégal, dont par exemple la Tunisie, dont par exemple l'Égypte, dont par exemple d'autres États, à faire de même. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous en tout cas, en tant que LICOCO, on ne voit pas ces États-là prendre 0,2% et financer le fonctionnement de l'Union africaine. Conséquence, le fonctionnement de l'Union africaine va toujours continuer à être appuyé par les partenaires internationaux. Pourquoi nous le disons? Nous le disons parce que nous ne rêvons pas. Nous sommes devant des faits et les faits sont têtus. Prenons par exemple, la Chine nous avons signé les accords avec la Chine sur les contrats chinois. Vous savez que sur les 6 milliards, il y a déjà 1 milliard que le gouvernement de la RDC a déjà perçu à travers ces infrastructures ici que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que la RDC a utilisé 1 milliard de dollars sur ces routes ici à Kinshasa? Or, les experts, on a déjà arrêté, certaines personnes, les experts nous disent que, jusqu'à preuve du contraire, toutes ces infrastructures ont coûté entre 600 millions et 700 millions de dollars. Donc, il y a 300 millions ou 400 millions qui a disparu quelque part. Et vous allez nous dire que ces États-là, ce n'est pas seulement la RDC, il y a l'Angola, il y a l'Éthiopie, il y a le Congo-Brazzaville, il y a le Tchad. Vous voyez tous ces États-là qui ont des ressources extractives tellement importante, ce sont des États qui sont les plus corrompus de la planète.
Mais Ernest Mpararo, en parlant de la mise en place d'une zone de libre-échange continentale, est-ce que la corruption ne serait pas en plus un obstacle? Parce qu'un pays qui se dit lutter contre la corruption et qui voit son voisin ou un autre pays de la région, qui laisse faire, est-ce que ça ne va pas être un obstacle?
Effectivement, c'est un obstacle. Regardez le cas de la RDC. Nous sommes membres de SADC. On nous dit, écoutez, faisons ouvrir nos frontières pour que le commerce, pour que il y a libre-échange commercial qui refuse la RDC. Le Rwanda vient de supprimer tous les passeports à tous les citoyens africains. Vous partez sans, vous avez un passeport, vous prenez votre ticket, vous arrivez à Kigali, on vous donne les visas à l'aéroport. Mais chez nous, on vous dit quoi? Vous devez appliquer d'abord là où vous venez. Parfois, il n'y a même pas d'ambassade. Ça, c'est le premier obstacle. Deuxième, regardez la RDC, nous sommes dans les CEMAC en Afrique centrale. Ils ont signé des accords pour qu'il y ait libre circulation, il y ait circulation de personnes et des biens. Mais c'est la RDC toujours qui refuse. Aujourd'hui, un citoyen du Congo-Brazzaville peut aller au Gabon sans payer les visas. Mais nous payons les visas. Et vice-versa, du Camerounais, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la mauvaise gouvernance freine même la libre circulation des biens et des services. Et des personnes plutôt. Alors, ce qui fait que la corruption, c'est un handicap même à ces libre-échanges au niveau continental. Étant donné que les biens qui viendront du Congo pour aller à Brazzaville seront taxés, et les biens qui viendront de Brazzaville pour venir ici seront aussi taxés, parce que les gens cherchent à avoir des pots de vin à travers ces biens-là.
Alors, à travers le monde, vous le savez, régulièrement, des voix s'élèvent contre la doctrine libérale, le libre-échange. Alors, pourquoi ce serait le chemin pour l'Afrique aujourd'hui?
Étant donné que l'Afrique ne produit que les matières premières, l'Afrique n'importe pas des matières agricoles. Or, qu'est-ce que les Africains ont besoin? Les Africains ont besoin de la bouffe, ils ont besoin de la farine, ils ont besoin de sucre. Ce qu'aujourd'hui, nous ne produisons pas. Les riz viennent de Thaïlande, et ainsi de suite. Les pio que nous mangeons ici viennent d'où? des autres pays, soit Maroc, soit Namibie, et ainsi de suite. Les farines que nous consommons pour les pains, ça vient de l'extérieur. Les sucres, Brésil. Donc, vous voyez que tous les biens que nous consommons ici, en RDC par exemple, viennent de l'extérieur. Or, nous avons des terres qui peuvent produire tous ces biens-là, mais l'argent qui est affecté à l'agriculture, parfois cet argent est détourné par des ministres. Et c'est la même chose en Angola, et ainsi de suite.
Merci. Professeur Bob Kabamba, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Est-ce que le véritable préalable ne serait pas une bonne politique qui donnerait lieu à une bonne économie?
Au-delà de cette question-là, il faut bien se rendre compte. Quand on parle effectivement de ce que le collègue vient d'expliquer, mais il y a des mécanismes qui sont prévus pour les récalcitrants qui n'arriveront pas à pouvoir arriver à payer leurs cotisations. Vous savez tous que le système des statistiques est maintenant internationalisé, et chaque pays maintenant internationalise les différentes statistiques au niveau des banques centrales qui ont publié différents rapports qui sont publiés aussi par la BAD comme institution bancaire internationale au niveau africain. Et donc les 6 points sont connus. Et les textes fondamentaux de l'Union africaine prévoient aussi quand même des mécanismes, des sanctions pour les récalcitrants. C'est-à-dire que s'il y a des pays qui cachent ou bien qu'il y a des fraudes, il y a des corruptions, qui n'arrivent pas à payer leur contribution au niveau de l'Union africaine, eh bien ces pays seront sanctionnés, notamment la plus grande sanction, c'est le privé du droit de vote. Et contrairement à ce que l'on pense, de ce qu'on a vu dans l'évolution des derniers temps, c'est que beaucoup de pays qui ont des problèmes, qui ont besoin de l'Union africaine pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Et quand ils sont en difficulté pour pouvoir, par exemple, en termes de paiement de leurs cotisations, se prêtent de payer leurs cotisations rapidement pour pouvoir être éligibles au moment de discussion.
Professeur...
C'est la même chose, j'imagine, que ça va se passer.
Oui. Professeur, juste un mot pour conclure, l'émission est en train de se terminer. Juste en un mot.
Oui, donc, juste en termes de conclusion, je voulais dire que c'est une voie vient de se lancer avec les 0,2%, ce n'est pas encore la panacée, ce n'est qu'une voie.
Merci.
Pour essayer d'arriver à l'autonomie de la RDC. Ce n'est qu'une voie.
Merci, professeur. Merci, professeur Jérôme Sekana. 0,2%, vous l'avez dit, il y a déjà des réticences avec notamment l'Afrique du Sud, l'Égypte. Allons-nous y arriver un jour?
Nous allons y arriver. Je voudrais d'abord préciser que le 0,2%, c'est sur le produit non africain importé vers l'Afrique. Et je vous ai cité le cas de la Côte d'Ivoire qui commence déjà à payer. Et je voudrais préciser ici que l'agenda 2063 pour les 50 prochaines années des indépendances de l'Afrique est en route, est en marche. Il y a déjà un passeport africain. Souvenez-vous, à Kigali, on avait remis un passeport africain à Kosazana Zuma, et à Alpha Condé et même à Kagame. Il y a le projet du Fonds monétaire africain qui est en marche au niveau du Cameroun. Il y a le projet de la banque panafricaine qui sera à Abuja au niveau du Nigeria. Donc nous devons être optimistes. Nous ne devons pas être pessimistes.
Moi, je suis convaincu. Et en guise de conclusion?
En guise de conclusion, nous devons croire en nous-mêmes. L'Afrique, c'est notre continent. Il y a déjà 1 milliard d'âmes vivent ici, nous devons les nourrir et
merci.
Nous ne devons pas les nourrir toujours avec en gardant la main tendue vers l'extérieur.
Merci.
Nous devons nous prendre en charge. Et le moyen de nous prendre en charge, c'est celui-là qui est offert à la République,
à l'Afrique. Merci Jérôme Sekana. Ernest Mpararo, nous devons compter sur nous-mêmes. Comment vous entrevoyez l'avenir du continent africain après ce sommet?
Effectivement, nous devons compter sur nous-mêmes si, un, il y a des préalables qui sont remplis. Et parmi les préalables, il y a un. Il faut qu'il y ait une démocratie totale, il faut effectivement qu'il y ait une gouvernance totale et il faut qu'il y ait une politique participative. Il faut que les citoyens participent, s'approprient toutes ces initiatives-là. Sans cela, effectivement, il n'y aura que de la fiction et ça sera toujours des projets blancs qui ne pourra jamais impacter sur la lutte contre la pauvreté des citoyens africains.
Et vous pensez que les présidents africains sont prêts à lâcher?
Je ne suis pas sûr et certain. Il y a certains, dont j'ai dit le président Kagame, il y a certains, mais la plupart, 50% ou 90%, n'est pas prêt à lâcher.
Merci, monsieur. Cette émission est terminée. Réalisation Guy Maté, assisté de Dona Madimba, mise en onde Polydor Basunga, supervision Pelé Kipela, présentation et coordination Alain Irung Mouchige. Merci de votre attention. Au revoir.